Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église, grâce et vérité. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par notre Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
Bon, moi ce matin, je vous amène un petit partage en intro, parce que ça va être Gilles qui va venir après vous parler. Fait que moi, j'ai une question à vous poser. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi que Dieu nous compare à des brebis puis que lui, il est un berger? On aurait pu être un chat dans un pet shop. On aurait pu être, des, je sais pas, au moins des vaches sur une ferme, des chevaux. Des chevaux avec un palefrenier, là. Je pense que c'est le même que ça s'appelle, hein, c'est ça. Mais non, on est des brebis, puis lui, il est le berger. J'ai fait une petite recherche sur ça, puis ça fait un bout que j'enseigne les ados là-dessus. Puis s'il y a des ados qui m'entendent, ben c'est quelque chose de nouveau que j'amène, fait que ils diront pas qu'ils l'ont déjà entendu. Fait que en partant, la brebis, c'est un animal qui dépend de son berger. La brebis peut pas vivre à l'état sauvage. Si on la laisse se débrouiller toute seule, ses jours sont comptés. D'après moi, vous lâchez une brebis dans le bois, à une place que c'est sauvage un peu, là. D'après moi, c'est pas long qu'il y a des coyotes qui sortent le charcoal. Ils vont se faire une bonne bouffe. Puis, la brebis a pas de défense, elle peut pas mordre de ruée, elle peut pas faire grand chose. En plus, il faut qu'elle soit tondue, parce qu'elle se ramasse avec beaucoup de laine qui pousse sur elle, puis à un moment donné, il y en a trop. Puis, elle se ramasse toutes sortes de parasites, puis de toutes sortes d'affaires là-dedans. Ça pousse sans arrêt. Puis, une petite anecdote, là. Moi, je travaille sur un camion, puis je me promène d'un rang, là. Un moment donné, je suis passé à une place qu'il y avait des moutons, puis j'ai arrêté pour les prendre en photo, puis il y en a qui les ont vus, ces photos-là. Puis c'est vrai que des moutons, hein, quand la laine est rendue longue après les autres, là, c'est pas très beau à voir. Pourtant, la brebis se permet d'avoir son petit caractère propre. Il n'y a pas deux brebis pareilles. Chacune, c'est comme du monde, finalement. Chacun a... Je sais pas, là. Il y a des brebis qui s'entendent pas avec les autres. Ils sont tout le temps en train de se tirailler. Il y en a qui poussent l'autre pour manger où est-ce que l'autre mange, même si elle pourrait manger où est-ce qu'elle était déjà avant. Elle va tosser l'autre pour avoir de l'eau. Elle va tosser l'autre pour se coucher où est-ce qu'elle couche. Pourtant, pourtant, ils couchent à terre, tu sais, ils peuvent bien se coucher. Il y a trop de quoi. Il y a des brebis qui désobéissent tout le temps à leur berger. Ils essaient tout le temps d'aller où est-ce que le berger veut pas qu'il aille. Pour aller voir, ils voient de quoi dans une talle de branche, ils vont voir c'est quoi. D'une certaine façon, quand ils font ça, c'est parce que ils savent bien que s'il leur arrive de quoi, que le berger va aller les secourir. De toute façon. Ils s'en doutent bien. Aussi, il y a des brebis qui suivent le berger, qui cherchent jamais à avoir la meilleure place, qui vont faire ce que le berger lui dit. Ils sont dociles. Le berger, il les emmène sur un chemin, ils vont suivre. Ils les emmène à une autre place, ils vont suivre. Il les fait manger à une place, ils vont manger. Où est-ce qu'il les fait manger? Curieusement, c'est ces brebis-là qui ont la meilleure qualité de vie. Eux autres, ils n'ont pas de stress. Ils n'ont pas de jalousie envers les autres. Ils se cassent pas la tête avec ça. Puis de toute façon, ils ont toujours à boire puis à manger. Puis ils savent. Ils savent qu'ils vont tout le temps en avoir. Ça donne rien de vouloir manger qu'est-ce que l'autre a, puis boire qu'est-ce que l'autre a. Ils en ont déjà. Puis le bon berger, je dis bien le bon berger, il s'occupe toujours de ses brebis. Le bon berger s'occupe toujours de ses brebis. Ça, ça veut dire que le bon berger, il y en a un, il s'occupe toujours de ses brebis. Il ne s'occupera pas des brebis des autres bergers. Lui, il s'occupe des siennes, puis il s'en occupe comme il faut. En passant, David lui-même, il a dit, « L'Éternel est mon berger. » Il n'a pas dit, « L'Éternel est un de mes bergers. » Il n'a pas dit, « L'Éternel est un papier berger. » Il a dit, « L'Éternel est mon berger. » L'Éternel, c'était son berger à lui. Vraiment. Même s'il n'a pas eu une vie parfaite, c'est pas grave. Il n'y a personne qui a une vie parfaite. Mais c'était vraiment son berger. Puis aussi, Jésus lui-même a dit, « Je suis le bon berger. » Il n'a pas dit qu'il était un des bons. Il n'a pas dit qu'il était un papier berger. Il a dit, « Je suis le bon berger. » Un bon berger, il n'y en a rien qu'un. C'est Jésus. Avec le temps, quand le temps passe dans notre vie, puis qu'on suit notre berger, du mieux qu'on peut, bien sûr, le berger, il amène ses brebis sur la montagne. Sur la montagne, il y a de la meilleure herbe. Mais pour se rendre là, il faut qu'on passe par la vallée, par une vallée. Il y a toujours une vallée pour se rendre sur une montagne. C'est comme un chemin pour se rendre là. Puis, on n'a pas le choix de passer par là. Dans ce cas-là, la parole parle de la vallée sombre de la mort. Ça ne veut pas dire qu'on meurt quand on passe par là. Ben, ça veut dire que ça peut brasser. Il peut nous arriver toutes sortes d'affaires quand on passe là. Mais, si on est avec notre berger, même dans cette vallée-là, il est toujours là pour nous protéger. On n'a pas besoin d'avoir peur de le suivre sur ce chemin-là. Parce que c'est son chemin, lui. Son chemin, il est sûr. Il est sûr et il est garanti. Pour terminer, en rapport avec les brebis, je voudrais dire de quoi? Jésus lui-même, qui est le berger par excellence, qu'est-ce qu'il a fait quand il est venu? Quand il était avec ses disciples, tout, qui parlait au monde, c'était vraiment le bon berger. Mais à la fin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a parti de la place du berger, puis il a pris la place, pas d'une brebis, il a pris la place d'un agneau. Un bébé brebis. On s'entend-tu que un agneau, c'est 100% sans défense? On peut partir avec, on peut faire qu'est-ce qu'on veut avec. Jésus, il a pris cette place-là pour recevoir le châtiment de Dieu lui-même, Dieu qui est au-dessus de tout. Il a reçu le châtiment qu'on méritait. Puis pour faire ça, il a fallu qu'il devienne comme un agneau sans défense. C'est vraiment, comment je dirais, c'est vraiment extraordinaire qu'est-ce qu'il a fait là. Moi, juste de penser à ça, ça me renverse complètement. Fait que c'est ça que je voulais vous apporter. Fait que c'est pour ça que, comment dire, C'est pour ça qu'on est des brebis, puis que lui, c'est le berger. Nous autres, en tant que brebis, qu'est-ce qu'on a à faire? C'est de le suivre, lui, le berger. Puis, ça serait supposé de, comment dire, notre vie va s'emporter que mieux. Fait que c'est terminé pour moi. Là, j'inviterai Gilles pour la suite à apporter son partage.
Cool. Merci. Bon, fait que je vais commencer par un petit mot de prière. Fait que merci, Père, pour cette journée où ce qu'on peut se rassembler dans l'Église, Père, où ce qu'on peut entendre la parole, qu'on puisse entendre les hommes qui vont nous enseigner dans ce que ta parole a nous enseigne, Père. Puis, merci pour chaque personne qui sont là. Viens poser ta main sur moi, Père, parce que comme Benoît disait dans son message, je suis une de tes brebis, Père, puis j'ai besoin d'un berger sur ma vie, puis je te prie de m'aider à bien apporter le message de ce matin. Amen. Cool. Merci Benoît. C'était super bon ton partage sur la brebis parce que crime que c'est nous autres, hein? Ouais. Fait que je suis content que tu aies partagé ça, Benoît. Puis parce que le jeu, il est pas là. Fait qu'on va le laisser se reposer de ses microbes. Si ça en est, bien sûr. Puis moi, cette semaine, aujourd'hui, je vais vous partager dans ma lecture depuis plusieurs semaines, ben une couple de semaines en tout cas. Fait que, est-ce que ça vous est déjà arrivé de lire votre Bible puis de genre rien comprendre de qu'est-ce que vous lisez? Ça vous est déjà arrivé? Ben moi ça m'est arrivé. Ça fait un bout. Puis, je suis en train de lire dans Lévitique. Lévitique, c'est dans l'Ancien Testament. Puis Lévitique, c'est quand même assez quelque chose à lire. Puis je vais vous avouer que cette semaine, puis l'autre semaine, j'ai vraiment passé proche de pogner Lévitique. Puis, pas de l'arracher de ma Bible, mais genre de dire, je vais tourner au prochain parce que je comprends rien de ce que je lis. Puis je me suis dit, Colin, je m'étais dit que je lirais ma Bible, puis je veux la lire tout au complet, puis je me suis dit, je peux pas passer par-dessus Lévitique, je me suis dit que je la lirais toute. Puis je vais vous avouer qu'il y a certaines petites sections que j'ai genre, je lis tout ça, je dis là, on va lire d'autres choses, là, ça a comme pas d'allure, qu'est-ce qui est écrit là, là. Puis là, je me suis dit, Colin, je me suis ressaisi, j'ai dit, je vais tout le lire. On dirait que ça m'apporte rien lire ça parce que je catche carrément rien qu'est-ce qui est écrit. Mais je vais le lire pareil. Puis j'ai bien fait de continuer à le lire parce que j'ai appris quelque chose. Puis je veux vous lire dans Lévitique 2. Lévitique 2:1. Puis savez-vous quoi? Ça peut arriver, vous compreniez rien. Mais je vais vous enseigner quelque chose que j'ai appris cette semaine. Je le lirai pas tout. Je vais faire un résumé de qu'est-ce qui est avant, d'un peu qu'est-ce qui est après Lévitique 2:1. Mais c'est quand même le résumé de Lévitique pareil un peu de cette section-là. Fait que ça dit, sérieux là, c'est genre un peu spécial pareil. Puis dans mon entête de Lévitique 2, ça dit « sacrifice d'odeur agréable ». Fait que dans Lévitique 2:1, ça dit « lorsque quelqu'un fera à l'Éternel une offrande en don, son offrande sera de fleurs de farine, il versera de l'huile dessus et il y ajoutera de l'encens. Il apportera au sacrificateur, fils d'Aaron, les sacrificateurs, le sacrificateur prendra une poignée de cette fleur de farine arrosé d'huile avec de l'encens, il brûlera cela sur l'autel comme souvenir. C'est une offrande d'une agréable odeur à l'Éternel. Puis là, entre moi puis vous autres, les fleurs de farine, puis l'huile, puis toutes les patentes, je dis, comprends-tu rien? Qu'est-ce que ça veut dire, ces affaires-là? Mais, j'ai une Bible Scofield, j'ai une Bible d'études, puis ça a quand même creusé un peu ma curiosité pareil. Parce que quand ça parlait de farine, de fleurs de farine, tu y verseras de l'huile. Puis là, ça parle d'un processus de faire deux sacrifices, en tout cas un holocauste, puis un sacrifice d'action de grâce. En tout cas, je ne sais plus trop là, s'il n'y en a pas un des deux qui est bien dit, là, mais ça l'a piqué quand même ma curiosité parce que je me suis dit, crème, c'est écrit, il doit y avoir de quoi. Puis dans ma Bible, en bas, ça parlait de Lévitique 2. Puis dans Lévitique 2, je vais vous lire mes notes de bas de page d'études de celui qui a écrit la Bible. C'est quand même très intéressant. Ça dit c'est que les caractéristiques de l'offrande de farine. Puis vous allez trouver ça vraiment hot. Puis moi, je veux vous emmener à voir une partie de ce que moi j'ai trouvé dans ma lecture. Ça dit la fine fleur de farine illustre la fine fleur de farine. Attends une minute, j'ai des lunettes, moi, c'est vrai. Ça dit la fine fleur de farine illustre la constance et la totale équilibre du caractère de Christ, dont la perfection ne connaissait ni lacune ni excès. Puis là, quand ils faisaient leur sacrifice avec quelque chose qui était fait en farine, avec la farine de qu'est-ce que je vous ai dit tantôt, là, ça dit le feu, parce que quand tu le mettais au feu, le feu représentait quelque chose. Le feu représente le feu rappelle ses souffrances acceptées jusqu'à sa mort. Après ça, l'encens, elle avait une signification aussi. L'encens pur évoque le parfum de sa vie répandu devant Dieu. Après ça, l'encens de levain est significatif. Le mal ne peut habiter en celui qui se nomme la vérité. Puis, je vous lis encore un autre point. Ça dit, dans cette offrande-là, il n'y aura pas de miel. Ça dit, l'absence de miel est caractéristique. Le miel symbolise la douceur dont l'homme naturel peut se vanter tout en vivant en dehors de la grâce de Dieu. Or, la douceur de Christ est infiniment supérieure. Puis là, ça disait que quand tu versais l'huile dans la farine, ça dit dans l'huile mêlée à l'offrande symbolise la naissance miraculeuse de Christ, conçue par le Saint-Esprit. Après ça, ça dit l'offrande arrosée d'huile préfigure Christ oint par le Saint-Esprit. Puis qu'est-ce que je trouvais hot et tout là-dedans? Ça parlait du four aussi. Ça dit que si tu prends ton offrande puis tu l'as, en tout cas, elle était mise au four. Ça dit le four symbolise les souffrances invisibles de Christ et son angoisse intérieure. Après ça, si tu la mettais dans un poêle, parce que ça c'est tout écrit dans Lévitique 2, là, tout ce que je vous lis là, mais moi c'est un résumé que je vous fais. Le poêle est l'image des souffrances qu'il endurera publiquement. Je sais pas si vous comprenez, mais tout qu'est-ce que je trouvais ça hot parce que dans Lévitique, ça fait référence au sacrifice que Jésus-Christ va subir dans le futur. Ça faisait allusion, ça faisait référence au sauveur qui viendrait. J'ai trouvé ça tellement hot de lire ça que sais, si je lis ça de même, je dis les fleurs de farine, puis le sacrifice avec des animaux vivants, puis ça fait aucun sens, puis ça vaut quasiment pas la peine que je lise Lévitique parce que je comprends rien. Mais si je m'attarde à comprendre qu'est-ce qui est écrit dans ce livre-là, c'est que c'est tellement hot parce que Dieu était déjà en train de préparer, il est en train de leur montrer qu'est-ce que le Sauveur allait vivre pour eux autres. Parce que chaque chose, l'huile, l'encens, le miel, le four, le poêle, c'était tout, ça disait tout qu'est-ce que le Sauveur allait vivre pour eux autres. Puis ça allait les aider à le voir quand il viendrait. C'est hot, pareil, là. Tu sais, moi, je me suis rassis, là, puis je me suis dit, crime Lévitique, j'en passe plus de section. Même si je comprends pas exactement qu'est-ce que ça veut dire, ça vaut la peine que je m'attarde puis que je l'étudie, ce livre-là, parce que ça a un but. Puis, après ça, ça parlait d'un sacrifice, mettons, avec un animal. Puis ça disait de mettre du sel sur le sacrifice, mettons, qui était l'animal. Puis je vais juste vous terminer cette section-là. Avec ça, ça dit « Le sel symbolise la saveur de la vérité divine capable de neutraliser l'action corruptrice du mal. » Mais je trouvais ça hâte de voir toutes les significations de toutes ces petites affaires-là qui paraissent incompréhensibles, que ça veut dire quelque chose. Fait que je veux vous encourager à lire Lévitique. Mais en tout cas, moi, je pense que ça serait un livre que j'aimerais étudier, mettons, avec Ariel ou quelque chose de même, là, parce que Lévitique, en le lisant, je me rends compte qu'il y a plein d'affaires cachées là-dedans, puis ça vaut à peine que je le lise. Puis, c'est ça. Fait que les sacrifices font référence à la venue du Sauveur de l'humanité, Christ. Puis, ensuite, qu'est-ce que je vais vous partager, ça dit? OK. OK. Puis, Puis je trouvais que ça représentait nos vies aussi un peu. Parce que pour ma vie, quand je vis des situations où qu'il y a quelque chose devant moi que je comprends pas, je mets pas non plus d'intérêt à le vivre. Je me dis c'est pas important, ça vaut pas la peine à quoi ça sert vivre ces choses-là ou d'être dans telle période de ma vie, ça sert à quoi? Mais tu sais, c'est comme la lecture. Souvent, on sait pas à quoi ça sert, mais ça sert à quelque chose. Si Dieu l'a écrit, si Dieu nous dit des choses, il nous les dit pas pour rien. Même si ça peut nous paraître inutile, il y a une raison pourquoi que Dieu a écrit les choses. Puis, je vais vous emmener quand même, dans Lévitique 10. Je vais vous emmener dans Lévitique 10, puis Lévitique 10, 1 et 2. Puis, Lévitique 10, 1 et 2, tu sais, je viens juste de vous dire, souvent, Dieu nous demande de faire quelque chose, on comprend pas pourquoi ça fait que ces choses-là se font, fait qu'on va les prendre à la légère, puis on suivra pas la demande de Dieu face à nous autres. Puis, dans Lévitique 10, 1 et 2, écoutez qu'est-ce qui se passe dans Lévitique 10. Ça dit, les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu, y posèrent du parfum dessus, ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Or, le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Ça dit que les fils d'Aaron, ils se présentent, ils font un sacrifice, Puis ça dit qu'ils se sont pas trop cassés la tête parce que Dieu il avait dit, tu sais, vous lirez dans Lévitique, là, il y a un ordre que Dieu demande de faire les choses au fils d'Aaron, de Aaron et à lui. Puis c'est écrit dans un ordre, puis il dit qu'il y a des choses que tu peux faire, puis il y a des choses que tu peux pas faire. Puis les fils de Aaron, ils ont fait le sacrifice, mais ça dit qu'ils ont apporté quelque chose que Dieu ne leur avait pas demandé. Puis ça dit qu'ils ont été consumés. Ils sont morts sur le coup. Puis souvent, dans nos vies, dans ma vie, Dieu me demande de faire des choses, puis je l'écoute pas. Ou je prends ça à la légère, mais on ne doit pas prendre à la légère qu'est-ce que Dieu nous demande de faire. Parce que si Dieu nous a demandé de faire des choses dans un ordre ou des choses X, c'est pas pour rien. Tu sais, si je dis à mes enfants de pas faire telle affaire, c'est parce qu'il y a une raison. Si je lis dans ma Bible, puis Dieu me met à cœur des choses, puis qu'il me montre des choses dans ma vie, que des choses que je peux faire qui sont pas correctes, il faut pas que je le prenne à la légère. Parce que si Dieu l'a écrit, puis si Dieu nous l'a dit, c'est pas pour rien qu'il l'a dit. Puis les fils de Aaron, ils ont pris à la légère qu'est-ce que Dieu avait demandé dans l'ordre du sacrifice, puis qu'est-ce qu'ils devaient apporter. Ils l'ont pris à la légère, ils l'ont payé au prix de leur vie. Mais c'est la même chose pour nous autres. Ce livre-là, il est autant pour nous autres encore aujourd'hui. Fait que je trouvais ça vraiment hot. Puis ça, Lévitique 10, 1 et 2, je me suis réveillé avec ça un matin. J'étais dans mon lit, j'étais endormi, puis j'ai fait tout. Lévitique 10, 1 et 2. J'ai fait, ben, pas 1 et 2, mais je me souvenais du sacrifice. J'ai fait, hey, mon gars, ça serait pas pire ce matin. Fait que, tu sais, je trouvais ça tellement hot, là, qu'ils ont pas écouté, mais ils ont payé au prix de leur vie. La parole de Dieu, je vous le dis, c'est la richesse la plus précieuse qu'on peut pas avoir, mais faut pas la prendre à la légère, parce que tout ce que Dieu a mis dedans, c'est pour nous autres. Puis il n'y a pas rien qu'on peut tasser ou rajouter. C'est ça, c'est ça. Fait que, je veux vous lire dans Lévitique 14. Hey, savez-vous quoi? Je pensais jamais partager sur Lévitique, parce qu'au début de ma lecture, je trouvais tellement en place, ce livre-là, je dis, ah, c'est sûr qu'il se passera jamais rien là-dedans. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Cool. Fait que Lévitique 14, 1 et 5. Ça dit, est-ce que vous êtes prêts? Oui? Feu. Je suis énergique, hein? Ah, je suis énergique. Non, mais je suis content de vous partager ça. L'Éternel parla à Moïse et dit, voici quelle sera la loi. Ah, crime, pourquoi je lis de 1 à 5? Ah non, c'est pas, c'est Lévitique 14, 5, pas 1 à 5. Lévitique 14, 5. Ça dit, le sacrificateur ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux sur le vase de terre, sur de l'eau vive. Là, j'ai fait, c'est quoi l'image du pot de terre avec de l'eau vive dedans? Mais ça l'a quand même piqué ma curiosité. Puis en bas, dans mes références, dans mes notes, dans les commentaires, là, dans l'étude autour de mes notes, il y avait un verset qui parlait de 14.5. Fait que je dis, bon, ben, je vais aller lire qu'est-ce que Dieu voulait dire par rapport au vase de terre puis l'eau vive qui était dedans. Ça dit, le vase de terre est l'image de Christ dans son humanité, alors que l'eau vive symbolise le Saint-Esprit, l'Esprit de vie. Puis ça dit, Christ a été mis à mort quant à la chair, mais il a été rendu vivant quant à l'esprit. C'est hâte pareil, hein? Parce que ça montrait que le Sauveur allait venir, que on allait le faire mourir de son corps. Son corps allait mourir, là. On a dit, on va avoir la paix, il est mort, point final. Mais ça dit que l'ennemi n'a pas vaincu sur lui parce que ça dit que son esprit vivait encore. Ça montrait le Sauveur qui s'en venait. Le vase de terre symbolise son corps, puis l'eau vive qui est dedans représente son esprit. Ça dit que son esprit vit. Puis je trouvais ça hot, pareil, de voir ça. Que ça avait encore une signification. Puis Lévitique, c'est tout de même. C'est tout plein d'affaires. Tu te dis, c'est quoi ces patentes-là? On verra jamais ça, on comprendra jamais rien, mais oui, on peut comprendre. Puis il y a plein de trésors dans le livre de Lévitique. Puis, dans Lévitique 14.5, ça nous donnait une référence et tout. Dans 1 Pierre 3.18, Je vais vous emmener là. J'espère que je vous donne envie d'aller lire dans Lévitique ou de vous acheter une Bible d'études. Mais en tout cas, moi, sérieusement, je me suis fait du fun à lire ça, là, puis à pouvoir comprendre toutes ces choses incompréhensibles-là. Là. 1 Pierre 3,18, ça dit « Aussi Christ a souffert une fois pour les péchés, lui, juste, pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit. » Fait que je trouvais ça hâte de pouvoir leur comprendre encore mieux dans 1 Pierre 3,18. Fait que, en tout cas, je trouve ça hâte, puis ça fait référence et tout. Si vous lisez là, dans 1 Pierre 3, là, vous descendez dans 20-21, ça va faire référence à l'arche de Noé. Ça va faire référence aux personnes qui étaient dedans, les 8 qui étaient dedans. Je vous le dis, c'est hot. La Bible, elle se complète tellement bien, là. Puis, ça fait tellement référence au Sauveur, là. Tout ce qui est écrit là-dedans, là, même si on comprend pas tout, là. C'est ça. Fait que je veux vous encourager à lire votre Bible, à approfondir vos connaissances face à Dieu. Persévérer avec Dieu et un jour, vous verrez et nous verrons, on va voir nos récompenses. Tu sais, c'est important qu'on persévère, puis un jour on va comprendre bien des affaires, mais moi, mon but, c'est de vous encourager à lire, puis à vouloir approfondir vos connaissances. Puis, je sais que Marie-Ève, elle va donner un cours, bientôt, là, le prochain, là. Puis, elle m'en partage une section, là, puis tabarnouche. On a des choses à apprendre, puis on a des choses à connaître. Puis, je voulais vous motiver. Tu sais, si je vous lis Lévitique, là, puis que je vous l'explique pas comme faut, là, vous allez vous endormir, c'est sûr que vous allez partir de ça, vous allez dire, hey, c'est plate. Mais si vous vous laissez enseigner le pourquoi que les choses ont été écrites, vous allez capoter, puis vos vies vont être transformées. Puis c'est la même chose pour moi. J'ai besoin de lire et d'approfondir ma connaissance de Dieu. Puis, je me rends compte que ma liberté est juste. Ma vie, elle prend tout son sens, puis ma vie, je deviens libre quand j'apprends à connaître mon Dieu. Ma vie, elle a aucun sens en dehors de ça. Puis, plus que je vieillis, plus que les situations de ma vie m'apportent à me dire que il y a rien en dehors de la parole de Dieu. Il y a rien, même si je m'en irais dans le monde, même si je m'en irais n'importe où, ma vie, elle fait aucun sens. Elle a juste un sens quand je m'approche de Dieu, puis j'apprends à le connaître, puis que je l'applique dans ma vie de tous les jours. De toute façon, vous devez déjà l'avoir expérimenté comme moi, pareil, là. Dire, ah, ben, aujourd'hui, je lis pas, puis, ah, ça fait une semaine que j'ai pas lu, ou des fois, ça fait un mois que j'ai pas lu, mais ma vie, elle commence à être vraiment turbulente, sérieux, là. Quand ça fait longtemps que j'ai torsé la parole de Dieu dans ma vie. Puis quand j'y reviens, je me dis, crème, pourquoi j'ai pas été avant? Comment c'est que ça fait une semaine que j'ai pas lu? Quand il y avait plein de choses pour moi. Puis ma paix revient quand je me rassis, puis je réapprends à connaître mon Dieu, puis à me dire, crème, il est là. Ah, il fait telle affaire dans ma vie, puis tout. Puis je vais vous partager en terminant. Ça fait-tu 20 minutes, Colin? Oh yes, je suis d'intent. Proverbe 35. Je vais terminer en vous lisant ça. Moi, ça m'a fait du bien cette semaine, puis c'est plate, mais je l'ai partagé aux jeunes hier, Proverbe 35. Fait que eux autres, ils ont déjà eu ça, ils vont dire que c'est plate. Ça, c'est pas vrai. OK, je vais vous lire ça. C'est où dans Proverbe, dans la Bible? Non, c'est pas vrai. Voyons. Yes! Jean-Martin, qui a dit ça? Hein? Jean-Martin, qui a dit ça au milieu? Qui a dit ça? Sylvain Fillon? C'est pas de Beauvert? 30 verset 5. Colique de Gilles. Voyons. Coudon. Ah, ben là, pour de vrai, je niaisais, mais je le trouve plus. Je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Arrête de faire des blagues, Jules. Page quoi, Pat? OK. Ben, moi, je suis à la page 712. Toutou? Calé, on a la même Bible. Bon. Proverbe 35, 30, verset 5. Ça dit, toute parole de Dieu est éprouvée. Puis ça dit que, quand la parole de Dieu est éprouvée, ça veut dire que la parole de Dieu, elle a été testée, puis elle est digne de confiance. Ça, là, je peux pas dire, ah, ben, la parole de Dieu, c'est pas hot, puis je dois prendre à la légère. Ça dit, elle a été éprouvée, elle est digne de confiance, puis tu peux marcher selon ce qui est écrit là-dedans. Puis ça, c'est quelque chose qui est quand même très bien de le savoir. Puis l'autre chose qui m'a fait beaucoup de bien de lire, ça dit, il est mon bouclier, il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Il y en a tellement de situations dans ma vie où ce que je me sens comme une personne qui, des fois, est laissée à elle-même, où il y a des situations que tu dis, ça te dépasse, tu comprends pas, tu as envie d'être découragé, de tout mettre de côté, mais ça dit, il est un bouclier pour ceux en qui, pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Ça, je vous le dis, là, ça a été mon encouragement de la semaine, ça, quand je l'ai lu. Je me suis dit, crème, il est mon bouclier parce que je cherche en lui mon refuge. Je vous le dis, vos vies vont être transformées, puis je pense que c'est la chose qui nous permet. La parole de Dieu, c'est la chose qui nous permet que la vie n'embarque pas par-dessus nous autres, qu'on se laisse pas envahir par tous les tracas, les soucis financiers, les soucis dans nos familles, par rapport à nos jobs, par rapport à nos affaires qui marchent pas ou qui pètent ou qui... Et ma paix, elle revient. C'est ça qui me permet de pouvoir me rassurer puis de pouvoir vivre les choses que je vis sur terre, puis rentrer dedans puis d'en ressortir après. Ça, si je m'assis pas puis j'apprends pas à penser avec Dieu puis me faire rassurer, je vous le dis, je suis une poule pas de tête. Juste hier matin, j'ai commencé ma journée, j'avais plein d'affaires à faire puis j'ai commencé ma journée, j'étais déjà en train de courir puis me garocher partout puis dire, wow, là, tu commenceras pas à te brûler les premières minutes de la journée, là. Faut que j'apprenne à relâcher un peu puis de faire confiance à Dieu dans ma journée, là. C'est de même à tous les jours. À tous les jours, la vie va tellement vite que si on n'apprend pas à s'asseoir puis de penser avec Dieu, c'est la vie qui va avoir le dessus sur nous autres. Puis c'est facile. Puis moi, je pense que je suis le premier. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais je pense que je suis pire que vous autres. Je suis sûr. Mais non, c'est pas vrai, mais je vous le dis, j'ai besoin de m'asseoir puis de lire. Puis lisez. Puis même si vous comprenez pas ce que vous lisez dans la section où ce que vous êtes, un jour, vous allez le comprendre. Mais faut pas qu'on prenne à la joie la parole de Dieu. C'est la chose la plus importante que Dieu nous a laissée. Puis c'est ça qui va faire que on va vieillir heureux, puis on va vieillir sécure, puis on va vieillir en santé. Fait que c'était ça que je voulais vous apporter un matin, de vous encourager à lire, puis de vous faire former, puis d'être les personnes les plus efficaces, puis les personnes les mieux sur terre. Lisez, faites-vous former, puis négligez pas les rassemblements, puis c'est notre richesse. C'est la chose que je souhaite léguer à mes enfants, à ma famille, puis aux gens qui m'entourent. Que les gens puissent comprendre qu'est-ce que moi j'ai compris. Parce qu'il y en a d'autres qui l'ont compris avant moi puis qui me l'ont transmis. Fait que c'est ça. Fait que c'est cool. Fait que c'est ça. Fait qu'on finit par un petit mot de prière. Y a-tu de quoi? On finit par un mot de prière. Fait que merci, Père, pour cette chance d'avoir cette parole-là dans nos vies, Père. Nos vies seraient tellement rien sans cette écriture-là. Puis merci de nous garder à travers ta parole. Merci pour l'Église que tu nous as donnée, Père. Je te demande d'en prendre soin, Père, puis qu'on puisse en profiter jusqu'au jour où tu vas venir nous chercher, Père. Merci pour l'unité, merci pour chaque frère et sœur qui sont ici ce matin, que leur vie fait la différence. Puis je te prie que tu puisses venir dans leur vie cette semaine, Père, ils puissent partir d'ici, Père, avec un élan, Père, à lire la parole, puis que leur vie puisse être différente, Père. Puis merci pour tout, puis merci aussi pour le partage de Benoît. Amen.
Ce message vous a fait du bien? Vous en voulez plus? L'Église Grâce et Vérité vous offre un site web sur lequel vous trouverez des messages en audio, vidéo et bien plus. Merci de nous honorer en les partageant sur les médias sociaux. Vous pouvez aussi laisser vos commentaires sur notre page Facebook ainsi que sur notre site web au www.graceetverite.org.